Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode un peu particulier, car cette fois-ci, c'est moi qui passe de l'autre côté du micro. Vous avez été nombreux à me demander de me prêter à mon tour à cet exercice pour en savoir un peu plus sur mon parcours et sur qui je suis, donc j'ai profité de mon séjour à Bali pour tourner cet épisode avec ma cousine. Dans cet épisode, j'ai essayé de répondre aux questions qui me sont le plus fréquemment posées, c'est-à-dire quel a été mon parcours scolaire et universitaire, qu'est-ce qui m'a poussé à créer mon compte Instagram et comment j'arrive à m'organiser entre ces différents projets. On aborde aussi des sujets plus personnels, comme les moments difficiles que j'ai pu rencontrer, comment j'ai appris à les dépasser et surtout comment trouver l'équilibre. J'espère que cet épisode vous plaira, c'est le dernier avant la petite pause du mois d'août, car il est très difficile de continuer à rencontrer des invités l'été quand tout le monde est en vacances. Vous pouvez donc profiter de ce mois-ci pour rattraper les épisodes que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'écouter encore ou me retrouver sur YouTube où je continuerai à poster. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes qui arrivent d'ici quelques semaines et en attendant, je vous dis à tout de suite pour le nouvel épisode d'In Power.
Coucou Loulou.
Coucou Lolette.
Bon bah alors nous voilà à Bali. Et puis après avoir échangé avec pas mal de personnes et que t'aies rencontré pas mal de personnes, c'était intéressant aussi de te découvrir toi, étant donné que tes abonnés te connaissent pas forcément totalement. Donc déjà pour les personnes qui nous écoutent et qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu ?
Oui, totalement. C'est vrai que j'ai pas mal de demandes de personnes qui souhaitaient que je passe derrière le micro. Donc, c'est un exercice auquel je vais essayer de me prêter. Alors, c'est toujours dur de se présenter, mais je commencerai par dire que je m'appelle Louise, que j'ai 21 ans, que je suis avant tout étudiante à Sciences Po Paris et que j'ai créé la plateforme My Better Self où j'essaye en fait, d'aider un maximum de personnes à être bien dans leur tête et bien dans leur corps. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose de très, très difficile. Ouais. Ouais, et en fait, même moi, c'est quelque chose avec lequel en fait, j'ai toujours eu du mal. Et c'est le fait de prêcher en fait, un peu ce message qui m'a vraiment fait réaliser à quel point ça devait être une évidence et pas un combat.
Et ça n'a pas toujours été le cas, en plus, pour toi.
C'est vrai que ça n'a en fait, pas du tout été quelque chose d'évident pour moi, au contraire. En fait, j'ai toujours intériorisé le fait que je n'étais pas la jolie. Parce qu'en fait, c'est marrant, mais quand on est ado, on a très rapidement des étiquettes. Et pour moi, en fait, mes sœurs, j'avais intériorisé que c'était elles les jolies. Et en plus, parce qu'elles me le répétaient assez souvent, en tout cas ma grande sœur. Et que du coup, moi, j'ai plutôt misé sur ma tête. Et qu'en fait, je me suis vraiment résignée dans ça. Donc, c'est-à-dire que pendant une période, j'ai essayé de le changer. Je dirais de mes 13 ans à 16 ans. J'ai vraiment eu, je me souviens, je regardais toutes les autres filles, j'essayais d'être pareille. Tu vois, c'est là où j'ai commencé à me maquiller pour me bronzer, où j'ai vraiment voulu commencer voilà, bien m'épiler les sourcils, où j'ai commencé à vouloir essayer d'avoir un visage plus fin, de vraiment ressembler aux standards de beauté. Et j'étais vraiment misérable, en fait. Quand j'essayais de ressembler à quelqu'un que je n'étais pas, j'étais misérable, parce qu'en fait, j'y arrivais pas. Et à partir du moment où je me suis résignée, et je crois que de 16 à 20 ans, tu vois, je l'ai pas trop mal vécu. En fait, voilà, c'est là où j'ai commencé à plutôt m'épanouir dans le travail et dans les projets.
Et dans le sport aussi, un peu.
En fait, le sport, j'en ai toujours fait, pour le coup.
Oui, ouais.
Tu te souviens, on faisait de la danse quand on était petite. J'ai fait tous les styles de danse. Je me souviens, avec ma sœur jumelle, on disait ça. Ouais. Nous, on a fait tous les styles de danse, du classique, du moderne, du hip-hop. Et je faisais de la gym à haut niveau quand j'étais ado.
Ouais, c'est vrai.
Et j'ai arrêté pour me consacrer à la préparation de Sciences Po, parce que ça me prenait trop d'heures par semaine. Mais donc, le sport, comme je le faisais vraiment juste pour le loisir, ça, à l'époque, ça ne m'avait pas encore autant aidé que maintenant. Et donc, ouais, je me suis vraiment épanouie plutôt dans le travail. Et c'est plutôt à travers ça que j'essaie de me prouver quelque chose. Et je pense que c'est en me remettant au sport, du coup, quand je suis entrée à Sciences Po et que j'avais plus de temps,
ouais, parce
que là, j'ai vu l'envers du décor et à quel point, en fait, il y avait beaucoup de femmes complexées.
Parce que quand je disais vraiment faire du sport, parce que c'était dans une autre optique que quand tu faisais du sport quand tu étais petite. Là, c'était vraiment pour te sentir mieux,
pour perdre du poids, hein, écoute, à la base. Hein.
Pour en gagner.
Non, à la base, je ne sais pas. J'ai commencé le programme de BBG de Kayla Itinès en terminale parce que ma grande soeur, surtout, avait pris du poids. moi, j'avais pris du poids avec la pilule et elle m'a dit, viens, on fait son programme. Elle m'a montré les transformations. Et elle m'a dit, viens, on le fait, c'est à la maison, on n'a pas d'excuses, on se motive. Et j'étais là, ok. Et à base, c'était pour en perdre. Je me souviens, je te montrerai mes photos avant. Tu sais, j'avais fait le vieux selfie à l'arrache dans le miroir. On voit vraiment que j'ai des kilos en trop. Et c'est là, en fait, où moi, j'ai perdu trop de poids. Et je suis rentrée à fond dedans. C'est vraiment là où j'ai... Bah, je me suis épanouie à travers ça aussi, en fait. C'est qu'après Sciences Po, il fallait que je trouve autre chose dans lequel m'épanouir. Parce que j'avais atteint un peu l'objectif que j'avais. Il m'en fallait un nouveau. Et du coup, ça a été ça, parce que c'est ce qui s'est présenté, quoi. Mmh. Et donc, je me suis intéressée vraiment à la nutrition. Avant, j'y connaissais rien. Mes parents n'ont jamais cuisiné. Donc, moi, c'était vraiment découvrir que les aliments pouvaient être, entre guillemets... ton médicament, enfin tu sais en anglais ça sonne mieux, let food be your medicine, tu vois. Mais ça m'a fascinée et ça m'a trop fascinée en fait. Et j'ai diabolisé vraiment les aliments de manière générale et j'ai sacralisé le manger sain, le clean eating. En plus c'était vraiment la période, tu vois, c'était vraiment la période où on commençait à être à fond dans le healthy lifestyle. Il y avait beaucoup moins cette idée de balance qu'il y a plus maintenant, je dirais. Mais du coup, ouais, c'est là où j'ai perdu 10 kilos en fait en un an. Alors que j'étais pas vraiment très grosse de base, j'avais quelques kilos en trop, tu vois, mais j'étais pas grosse. Et c'est un peu l'envers, ouais, du décor.
Comme quoi, ça peut devenir vraiment maladif. Enfin, de là à perdre 10 kilos quand on n'a pas vraiment besoin,
ouais.
C'est vraiment qu'il y a un moment où t'es tellement dans ton truc que tu te rends pas compte, en fait.
Bah ouais, en fait, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui le veulent consciemment, et c'est l'anorexie. Et on peut totalement aller chercher de l'aide, et j'en connais qui en sont sortis. Et moi, c'était plutôt ce qu'on appelle l'orthorexie, qui est le vouloir trop bien faire. Manger le plus sain possible, vouloir s'entraîner le mieux possible. Et cette recherche un peu de perfection, qui a toujours fait partie de ma personnalité, mais qui quand on l'applique à la santé, ça devient plus problématique.
Ouais.
Parce qu'en plus, encore une fois, je pensais bien faire. Et
ouais.
Je me souviens, même toi, tu m'avais dit à un moment, tu sais, quand on allait bruncher... attention, Loulou, là, tu es quand même un peu mince.
Ah oui, mais ça, c'était plutôt récent.
C'était il y a trois ans.
Ouais, c'était il y a 2-3 ans. Enfin, c'est ce que je veux dire quand
De toute façon, j'ai pas commencé il y a longtemps, moi, mon fitness journey.
J'avais pas le souvenir, en fait, que c'était pour perdre du poids à ce moment-là. Enfin, j'avais pas vraiment toutes les infos.
Ouais, t'avais pas toutes les infos, ouais.
Je savais juste que tu faisais du sport et que tu étais vachement remise en forme et tout, mais je savais pas du tout dans quel but. Enfin, je savais que c'était quand même pour te sentir un peu plus forte.
En fait, ça a changé au fur et à mesure.
Ouais.
Au début, c'était pour perdre du poids, mais c'est vrai que comme j'en ai perdu assez rapidement, et qu'en fait, les gens commençaient à me dire « t'es mince, t'es trop mince » et tout, et j'en avais marre, j'ai commencé à vouloir prendre du muscle. Et en plus, mes idéaux de beauté ont changé entre guillemets aussi, parce qu'avant, je suivais plutôt des filles très minces, et après, j'ai commencé à trouver ça très beau, les filles qui avaient des formes, et non pas qui ressemblaient à des hommes, je tiens à préciser, on a toujours ces clichés-là, mais qui étaient juste musclées, plus musclées. Et c'est plus devenu assez rapidement ce que je recherchais. Mais encore une fois, moi, j'aimais ça, en fait. Tu vois, c'était au-delà du physique. Le physique, c'était encore plus... Enfin, en fait, c'était, encore une fois, pour plus répondre aux attentes de la société et aux injonctions qu'on m'envoyait de « t'es trop maigre, t'es trop mince, t'es un squelette » et que je voulais contredire, en fait. Mais jamais je m'écoutais que moi. En soi, j'étais heureuse, tu vois, à cette époque. J'étais quand même très dans la restriction. Mais j'ai trouvé un certain plaisir, tu vois, à tout faire parfaitement.
Ouais.
Parce que je me faisais du bien, tu vois, c'était pas malsain. C'est pas comme les personnes qui vont manger leurs sentiments, tu vois. Ce qui, c'est un peu, à mon avis, c'est tous arrivé une fois, mais pour certains, c'est vraiment maladie.
Ouais.
Et là, tu te fais du mal. Moi, c'était l'inverse. Mais donc, en tout cas, c'est un extrême et je suis très contente d'en être sortie, entre guillemets.
C'est clair. Et du coup, ouais, tu nous as parlé un peu de l'adolescence, mais... Quel type d'enfant t'étais quand t'étais un peu plus jeune ?
Bah écoute, ça tu vas pouvoir nous aider aussi, hein, parce que tu me connaissais, vu qu'on est cousines, on l'a toujours pas précisé.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Mais j'étais quel type d'enfant ? Ben, d'après ce que je me souviens et d'après ce qu'on m'a dit, j'étais le type d'enfant qui voulait toujours avoir raison, voilà, qui était assez commandante, qui faisait vachement la gueule, enfin, qui pouvait bouder très rapidement, qui râlait beaucoup en fait. C'est-à-dire que je pouvais être super joyeuse, enfin ça mon père c'est un truc qu'il me répète tout le temps, t'essayais toujours de faire rire les autres. Et c'est vrai que je me souviens, tu sais, d'une fois où j'avais 8 ans et je m'étais déguisée en Lala. C'était mon père qui m'avait offert le costume.
Mon père ?
Ouais. Mon parrain, et qui m'avait offert le costume et je m'étais déguisée. Et... Enfin voilà, on voulait toujours un peu amuser la galerie. Ouais. Nous deux, on était un peu les leaders qui menaient les spectacles. On aimait bien imposer nos idées. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, moi, je pense qu'il m'a vachement formatée, entre guillemets, c'est d'avoir une sœur jumelle.
Ouais.
Et du coup, forcément, t'as un rôle qui se forme, en fait, quand t'es deux. Et donc, moi, très rapidement, j'ai pris le rôle de commandant. Mm. Et ma sœur Camille, de, j'aime pas dire d'au paysan, parce que c'est un peu péjoratif, mais plus de bras droit.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai rapidement pris ce rôle à cœur, sûrement parce que c'était aussi plus naturel pour moi. Et voilà, après, assez rapidement, j'ai quand même été rapidement studieuse. Enfin, j'ai très vite aimé apprendre. Tu te souviens, j'ai appris à lire toute seule à 5 ans.
Mais je me souviens mais tu lisais un livre par jour au moins. C'était un truc de fou.
Je me souviens, le docteur, quand j'étais allée faire une visite de routine avec ma mère, et les médecins, je sais pas, ils te disent « Alors, ça va bien à l'école, t'es sérieuse ?» Et on m'avait dit... est-ce que tu aimes lire? Et j'avais dit, ah oui, j'adore ça. Et il me dit, ah, c'est bien, tu lis quoi? Un ou deux livres par semaine? Et j'avais été outrée. J'avais vraiment outrée. J'avais dit, oh, mais non, j'en lis 6 ou 7 par semaine. Et le mec, il était sur le cul, tu vois. Genre, il ne croyait pas, mais j'adorais lire. C'était. Et ça l'est toujours, mais ça l'était vraiment particulièrement à l'époque, le moyen de rêver, de découvrir des vies, de. Enfin, l'imagination, c'est un monde qui me fascine.
Ouais.
Enfin, tu vois, je vivais vraiment les vies des autres à travers les livres.
Ouais.
Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment très, très beau avec la lecture. Et c'est pour ça que j'adore les romans. C'est que c'est ce que j'ai lu quand j'étais jeune. Et c'est ce qui m'a le plus transcendé, quoi.
Bah oui, de toute façon, c'est sûr que la lecture, c'est hyper bénéfique. Moi, je sais que j'ai jamais été une grande lectrice. Mais du coup, ça a dû t'aider un petit peu dans les cours, forcément.
Ouais, je pense que bah déjà, je dirais toujours pour le français, pour l'orthographe, ça m'a tellement aidé. Enfin, j'ai jamais fait de faute.
Ouais.
J'ai limite, je corrigeais les gens, j'étais cette personne relou qui corrigeait tu sais, à la fin des textos. mais non, c'est vrai, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé l'histoire beaucoup. J'étais pas une matheuse, ça, clairement, il faut le dire. J'étais pas une matheuse, tu vois. Je pense aussi, c'est le fait qu'avec notre sœur, on nous a vachement. Enfin, avec notre sœur, avec ma sœur, on nous a toujours vachement comparé.
Bah,
enfin, mes parents nous ont toujours vachement comparé. Et que très vite, ma mère surtout nous a mis une étiquette Louise la littéraire et Camille la matheuse. Donc, je pense vraiment que ça, c'est un truc. Et ça, je l'ai lu vachement dans le livre Mindset de Carol Dweck, que je recommande énormément. Qui te montre à quel point ce qu'on te dit et ce qui va former tes croyances, tu vas finir par y croire. Et je pense qu'en fait, très rapidement, je me suis dans la tête que j'étais pas bonne en maths parce qu'on me le répétait. Et c'est très tard, en 4e, 3e, que j'ai réappris, entre guillemets, à aimer les maths, enfin, en tout cas, à devenir meilleure. Parce que vraiment, j'avais des sales moyennes en maths et au final, j'ai eu 19 au bac, tu vois. Parce qu'à un moment, je me suis dit, j'en ai marre. En fait, j'ai eu une prof qui avait été nulle en maths avant. Et ça, c'est un truc qui aide vachement.
Ça, c'est les meilleurs profs, ça.
Parce qu'ils ont compris pourquoi toi, tu ne comprenais pas. Enfin, ils peuvent te mettre à, ils peuvent se mettre à ta place.
Ouais.
Et donc, après, ça m'a vachement aidé, ça. Et oui, c'est vrai que j'ai jamais pas aimé l'école.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
T'avais toujours ce goût d'apprendre, de découvrir des choses, en fait.
C'est ça. J'ai jamais été rebutée par le fait d'apprendre.
Curieuse, en fait.
Enfin, pas par cœur, par contre.
Non,
ça,
mais
détesté,
oui, c'est vrai.
Ouais, parce qu'il y en a, il y en a qui adorent apprendre par cœur.
Ah, putain.
Ils se sentent, je pense, enfin, tu sais, à juste titre, plus intelligents, plus érudits et tout. Moi, j'ai toujours détesté ça et j'ai toujours aimé la liberté d'apprendre ce que je voulais. Et c'est pour ça que, oui, parfois, j'avais du mal quand même quand on me forçait à apprendre quelque chose typique avec les maths et les SVT, tu vois, ça, j'avais grave du mal. La physique.
Ah, moi aussi.
C'était l'horreur, la physique. L'électricité.
Ouais.
Ah, oui, je crois que j'avais eu 3 sur 20. Genre, c'était. Ça, j'avais du mal, ouais.
Et du coup, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite ? T'avais un métier rêvé ou t'y pensais déjà un peu ?
Ouais, bah très rapidement en fait, du fait de mon amour de la lecture, j'ai voulu être journaliste. Je pense qu'au début c'était écrivain.
Exact.
Au début c'était écrivain et après le métier de journaliste m'a fascinée parce que je trouvais ça génial pour écrire sur ce qu'on voulait. J'aimais la fiction mais j'aimais aussi l'idée qu'on pouvait écrire... des articles sur la cuisine, sur le sport, tu vois, sur un peu n'importe quoi. Et je me souviens, moi, je trouvais ça... Quand j'ai commencé à comprendre, tu vois, vers 7-8 ans, que le métier de journaliste, c'était assez défini, c'est-à-dire que t'étais journaliste sportif ou t'étais journaliste politique, moi, je trouvais ça aberrant et je me disais, mais non, Moi, je veux être rédactrice en chef de mon propre magazine, où je serai la seule journaliste dedans. Je me disais, mais j'ai envie d'écrire sur tous les sujets, parce que ouais, j'avais pas de passion assez forte pour me dire je vais être journaliste que dans ce secteur-là. Donc, je voulais écrire, je voulais être journaliste, et c'est pour ça, après, que j'ai voulu intégrer Sciences Po, en fait.
Et aussi, peut-être, de donner ton point de vue. Est-ce que ça t'a... c'était quelque chose qui pouvait te stimuler
Je me demande... je sais pas. Non, je crois que c'était vraiment juste le fait de pouvoir écrire sur des sujets qui m'intéressent. Mais en soi, le journaliste, c'est un travail objectif, tu vois.
C'est vrai, c'est sûr.
Il doit pas être subjectif.
Oui, c'est pas
donc c'était pas l'idée de donner mon avis à moi, tu vois. C'était plus l'idée d'écrire sur ce qui m'intéressait, mais pas d'écrire la première personne. Je voudrais dire
non,
que, tu
bien
vois.
Sûr, bien
voilà.
sûr, mais
plus dans ce sens-là.
Indirectement, même s'ils sont forcément obligés d'être objectifs, il y a quand même toujours un petit, tu vois, un petit point de vue derrière.
Bah, en tout cas, la volonté de s'exprimer sur un sujet,
ouais,
ça c'est clair.
Ouais. Et du coup, t'as dit que c'était pour ça que tu voulais intégrer Sciences Po. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, comment t'y es parvenue, quand est-ce que t'as eu un peu le déclic, entre guillemets, de vouloir y aller
Ouais, c'est vrai qu'on me demande souvent, assez jeune, parce que mes parents nous ont toujours vachement poussé à être bonnes à l'école. Ils voulaient vraiment qu'on fasse de grandes études. Et du coup, très rapidement, quand j'arrêtais pas de dire que je voulais être journaliste, mon père m'a dit, me disait, il faudrait que tu fasses Sciences Po, c'est la meilleure école pour les journalistes. Et du coup, moi, j'ai vachement intégré ça. Et du coup, cette école me faisait tellement rêver, mais tellement rêver. Genre, je crois que j'ai commencé à dire que je voulais aller à Sciences Po vers la 4e, 3e. J'ai commencé à prendre ça très sérieusement en seconde, première. Et c'était clairement, ouais, la seule école que je voulais faire. Après, tu vois, j'étais pas du tout overconfident. Parce que, à Sciences Po, il y a plusieurs types de personnes, tu vois. Il y a ceux qui ont toujours su qu'ils allaient le faire, qui avaient déjà vraiment confiance en eux à la base. Et ceux qui rêvaient d'y aller, mais qui étaient trop pas sûrs de pouvoir y aller, tu vois.
Je m'en souviens, moi. Je me souviens même quand tu travaillais. Parce qu'en plus, tu commences dès la première à travailler pour Sciences Po.
Ouais.
Je me souviens de ça, ces 2 ans où t'étais juste à fond. Et ouais, où c'est vrai, où t'étais pas si confiante que ça, en fait.
En fait, moi, je me souviens, tu vois, j'avais rencontré une fois une fille qui y était. Elle m'avait emmenée en péniche, donc c'est un peu l'accueil de Sciences Po. Et je m'étais dit en partant, si jamais je suis là l'année prochaine, mais ce serait tellement incroyable. Après, je me disais, non, arrête de dire ça. C'est pas du tout sûr que ça arrive. T'as très peu de chance. Il y en a 1 sur 100. Enfin, tu vois, je me répétais ça. Et ça a toujours été un truc aussi propre à moi de jamais me faire trop de films. Parce qu'en fait, je m'en faisais tellement quand j'étais enfant et j'ai tellement une capacité à rêver qu'il faut vraiment parfois que je me redescende sur terre parce que la déception, sinon, elle est lourde.
Et du coup, après l'avoir vécu toi, ça serait quoi le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un qui voudrait intégrer Sciences Po ?
Bah, du coup, j'ai une vidéo prévue sur ce sujet sur ma chaîne YouTube qui arrive à la fin du mois. J'en dirai plus dans les détails parce que c'est très dur de donner un seul conseil. Mais c'est vrai que peut-être si jamais j'avais un principal conseil à donner, c'est vraiment de l'intégrer pour les bonnes raisons. Parce que le dossier compte vraiment autant que le concours écrit. Donc oui, soyez fort à l'école, oui, il y a un bon dossier, travaillez le concours, mais surtout faites-le pour les bonnes raisons. Ayez un projet clair et c'est ce qui fera la différence. C'est ce qui fera la différence. Avoir un projet défini, bien le mettre dans la lettre de motivation, bien travailler ce projet-là, même si ce n'est pas encore hyper clair pour vous, hein, même si c'est juste une idée que vous avez, creusez cette idée à fond parce que c'est la cohérence qui recherche avant tout.
Et même avec Sciences Po, avec tout ce que tu gères quand même pas mal de trucs, tes études, le sport, ton travail, tes sorties, enfin comment tu fais un peu pour t'organiser et pour gérer tout ça ?
Déjà, je pense que j'ai de la chance parce que je suis quelqu'un qui aime être organisé, donc c'est comme ça que je fonctionne. J'aime faire beaucoup de choses et j'aime le mettre sur le papier. Donc moi, très clairement, je le note sur le papier. Tous les jours, je fais une to-do list de ce que j'ai à faire. Et en général, toutes les semaines, je fais un programme de la semaine. Donc moi, c'est ce qui m'aide le plus. Voilà. Je ne sais pas si c'est venu... c'est pas venu d'un coup du tout. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à voir vraiment les réseaux sociaux, plus Sciences Po, plus le sport et tout... J'ai commencé à me faire des weekly plans, donc où je marque déjà si jamais j'ai des rendez-vous particuliers chaque jour, si jamais j'ai quelque chose que je veux accomplir, ou genre si j'ai une vidéo à tourner, si j'ai un podcast à enregistrer, la date, avec quelle personne c'est, je le note. Après, je note mes séances. J'essaie de voir du coup pendant la journée à quelle heure après je vais la faire. Et parfois, je prévois même aussi mes repas parce que c'est un truc qui m'aide, en fait, de savoir ce que j'ai mangé. Déjà, ça m'excite, entre guillemets, de savoir que ce midi, j'ai gaufre à la patate douce. Et comme ça, je sais que je vais me consacrer du temps à le faire. Après, bien sûr, quand je mange dehors, avec des amis, là, je change complètement de mindset. Mais en tout cas, moi, c'est un truc qui m'a aidé et même à préparer, du coup, ma bouffe à l'avance. Enfin, j'ai toujours eu un peu ce réflexe d'essayer de me simplifier la tâche un maximum pour, en fait, pouvoir libérer toutes ces heures dans la journée et avoir le temps, entre guillemets, comme tu dis, de faire tout ça.
Et justement, le fait d'avoir autant de choses à faire, ça te freine pas justement pour créer de nouveaux projets ou de nouvelles choses ou
Bah ouais, non, c'est marrant parce que je suis aussi quelqu'un qui se lasse assez vite et donc j'ai besoin d'avoir des nouveaux projets qui me stimulent. Donc en fait, quand j'ai des idées qui viennent, je les note et quand je sens que c'est le temps de commencer ou que j'ai l'envie de le faire, ben je vais faire en sorte de le faire. Mais après, ça va peut-être dire mettre d'autres choses de côté, pas forcément être à fond sur tout. Mais oui, clairement, si jamais j'ai une idée vraiment qui me tient à cœur, je vais pas me dire « Ah non, j'ai déjà trop de trucs » parce que sinon, sinon, je me ferais chier, quoi.
Bah ouais, c'est clair. Et notamment le podcast que t'as créé cette année. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer le podcast ?
Alors le podcast, moi, c'est venu du fait... Bah que du coup, tu vois, même si j'adore le sport, le fitness, la santé, et que c'est ce que je partage principalement sur mes plateformes Instagram et YouTube, c'est pas ma vie. C'est-à-dire que beaucoup de fit girls, j'aime pas ce nom, mais c'est un nom, c'est leur métier. Elles sont coach sportives, c'est leur passion, c'est génial, je trouve ça vraiment beau. Elles vivent vraiment de sport, c'est vraiment ce qu'elles ont choisi comme carrière. Moi, ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas. Je ne suis pas assez passionnée par le sport pour en faire vraiment toute ma carrière. Ouais. Et du coup, je commençais à avoir un peu besoin de parler d'autres choses et d'avoir une place dans ma vie sur d'autres choses qui m'intéressent, donc notamment la création, la créativité, parce que même si j'interviewe beaucoup d'entrepreneurs ou de makers, j'ai vraiment envie que ce podcast soit autour en fait, de la création de sa propre vie. Et c'est quelque chose que j'adore vraiment, qui me passionne. Mmh. Et comme moi, j'étais vraiment une adepte des podcasts, même si ce n'est pas encore hyper fréquent en France, aux États-Unis, ça l'est beaucoup et j'écoute vachement de podcasts parce que ben, comme j'aime faire beaucoup de choses, dès que je peux faire deux choses en même temps, je suis ravie parce que ça veut dire faire encore plus de trucs. Et c'est vrai que le podcast, ben, pour moi, quand tu cuisines, tu peux l'écouter. Quand tu es dans la douche, tu peux l'écouter. Quand tu es dans le transport, tu peux l'écouter. Donc, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et qui m'inspirait beaucoup. Et donc, je me suis dit, encore une fois, why not ouais, pourquoi pas toi faire le tien. Et ce qui m'a motivée aussi, c'est de me dire que j'allais pouvoir rencontrer des personnes super inspirantes à travers ça.
Bah ouais.
Parce que oui, du coup, j'aide les autres à les rencontrer, mais moi aussi, je les rencontre et c'est trop cool.
Bah ouais, grave. Franchement, t'as interviewé des personnes hyper inspirantes. Enfin, échangé, si je puis dire. Et si là, maintenant, t'avais le choix parmi... n'importe qui, vraiment qui tu veux, un dîner où tu peux lui poser toutes les questions que tu veux, échanger vraiment pendant des heures, ce serait qui ?
Morte ou vivante ?
Ah, les deux.
Les deux ?
Ouais.
Que ce soit morte ou vivante, ou j'ai dit une personne vivante et une personne morte ?
Dis-les, une personne morte et une personne vivante. Okay.
Alors, si jamais c'était une personne morte, je dirais peut-être... J'hésite entre deux personnes, j'hésite entre Steve Jobs et le mec qui a inventé lancer de l'ordinateur dans Imitation Game. Son nom m'échappe, mais en fait c'est le génie en fait qui nous a sauvés, qui a réussi à décoder le code qui a permis de mettre en place le débarquement des Anglais. Donc ce serait une de ces deux personnes. Parce qu'en fait, les génies, ça me fascine.
Ouais.
J'aimerais trop savoir comment fonctionne un peu le cerveau d'un génie,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Ou alors échanger avec, parce que pour moi, c'est limite un genre à part entière.
Ouais, c'est clair.
Donc je pense
c'est
que
c'est clairement
serait,
un don qu'on leur a donné.
Ouais, 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 qui leur ont été donnés. Et donc, c'est des personnes très inspirantes, enfin, notamment Steve Jobs, parce que lui, il a réussi à allier cela à l'action,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Vraiment. Pour moi, c'est difficile d'allier génie et entrepreneuriat et business parce que c'est deux secteurs très différents en soi. Lui, il a vraiment réussi. Donc, ça serait vraiment lui, je pense. Et du coup, c'est marrant parce que là, je pense à une autre personne vivante parce qu'à la base, j'allais dire je pense que c'est Emma Watson, parce que je t'ai déjà dit, je la trouve pareil, incroyable, et elle arrive à allier des domaines aussi très différents. En fait, moi, j'aime beaucoup les personnes comme ça, éclectiques, qui ne se résument pas à un seul domaine, et elle, elle a à la fois un engagement politique, militant, féministe, et aussi bah, juste une actrice de malade, et j'adore Harry Potter, et Harry Potter, c'est la vie, tu vois. Mais le fait d'avoir parlé de Steve Jobs, j'ai pensé au discours de J.K. Rowling. Elle parlait de Steve Jobs dans son discours à Harvard, et du coup, j'ai associé un peu les deux personnes. Et cette femme est tellement inspirante. Mais J.K. Rowling, c'est vraiment une personne que j'admire énormément. Elle vivait, elle était au stade le plus pauvre que tu peux vivre en Angleterre, qu'il est donné de vivre avec, leur sécurité sociale à eux. Et aujourd'hui, de savoir, enfin, tu vois, c'est même pas tant sa richesse, mais enfin, tu vois, parce que j'allais dire, c'est la femme la plus riche de l'Angleterre, mais c'est juste pour te dire le succès qu'elle a connu et l'épanouissement qu'elle a connu.
Ouais.
Et je trouve que c'est le plus beau message d'espoir qu'on peut donner. Aux personnes qui nous écoutent et même qu'on peut se donner à nous-mêmes. Parce qu'on n'arrête pas de dire pour des personnes plutôt des autres époques, ouais, c'était un autre temps, c'est difficile, mais J.K. Rowling, c'était il n'y a même pas 15 ans. Donc on ne va pas me faire croire qu'en 15 ans, tout a changé, tu
c'est
vois.
C'est clair.
Donc voilà, ce seraient les deux personnes que je rencontrerais.
Ce qui fait de J.K. Rowling, j'imagine, ton auteur préféré ou pas du tout?
C'est dur à dire, je pense pas. Non, en fait, c'est Jane Austen, mon auteur préféré. J'allais dire, je sais pas si j'ai des auteurs préférés, mais si. J.K. Rowling, je sais pas, en fait, je crois que c'est une catégorie à part. Mm. C'est une des femmes que j'admire le plus. Après, même si, oui, Harry Potter, c'est mes films préférés.
Ouais,
tu
voilà,
vois.
C'est ça que j'allais te demander. T'as préféré les livres ou les films?
Ah ouais, putain, ça c'est dur aussi. Hein.
Parce que personnellement,
bah,
moi, j'ai vu que les livres.
Les livres.
J'ai vu que le film.
Les livres, quand même. Bah, en fait, c'est, tu vois, j'ai commencé par les films parce que moi, j'étais très jeune quand c'est sorti Harry Potter. Bah oui. Tu sais que le 1, il est sorti en 97.
Oui,
c'est
vrai.
Ma naissance.
Ouais.
Donc, le film est sorti, si tu veux, avant que je sois en âge de lire vraiment
ouais,
le livre.
Ouais.
Donc, les films m'ont transporté et maintenant, avec le recul, les livres m'ont encore plus transporté, en fait.
Ah ouais.
Ouais. T'as une richesse des détails
c'est vrai.
Qui sont pas forcément retranscrits dans, dans les
dur.
Films.
Ouais, mais je trouve ça dur, une fois que tu as vu un film, de lire le livre après. Parce qu'au final, tu peux pas vraiment laisser place à ton imagination, étant donné que t'as déjà tous les personnages en tête. Tu vois la tête d'Harry, tu vois la tête d'Hermione, tu vois exactement comment ils sont tous.
Ouais, mais limite, c'est encore mieux, parce que du coup, tu les imagines et tu vis plus de choses, parce qu'encore une fois, il y a plus de détails dans les livres. Parce que l'inverse, pour moi, est pire. Quand tu t'es imaginé des gens et que tu vois à l'écran qu'ils sont différents.
Clair.
Moi, par exemple, ça m'a fait ça avec Les Orphelins Baudelaire. J'avais lu les livres avant, et les voir à l'écran, j'étais un peu déçue. En plus, il fait trop peur, je trouve, ce film.
Moi, j'ai adoré. C'est vrai qu'il fait peur. Moi aussi, il m'a assez
Olaf.
Marqué.
Putain.
Mais avec Olaf.
Mais le mec...
Il s'appelle Olaf.
Mais il s'appelle Olaf, je crois, si.
Mais Olaf, c'est le bonhomme de neige.
Je crois qu'il le comte Olaf, le mec qui fait trop peur, qu'il est pourchasse.
Ah ouais, putain, je me souviens plus. Ah
non, mais rien
ouais,
de pareil, là. Ah ouais, non, mais
ah, mais moi, j'adore, déjà, parce que j'adore Jim Carrey, genre, un point pas possible. Et Meryl Streep aussi.
Oh, Meryl Streep, actrice
elle,
préférée.
Mais,
je pense. Putain,
mais
le
tellement.
Prada,
oh là là, grave.
Un de mes films préférés.
Ça, c'est clair.
Bah, d'ailleurs, moi, ce que je trouve génial, c'est que toutes ces actrices, elles ont prouvé qu'elles étaient plus que des actrices, parce qu'on minimise vachement le rôle d'acteur. Et avec le mouvement Time's Up, donc tu sais, c'est les actrices hollywoodiennes dont particulièrement Meryl Streep fait partie. Elles ont élevé la voix pour dénoncer les inégalités et les injustices par rapport aux femmes,
là-dessus.
Que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes de société, que ce soit en termes d'image de la femme, tu vois. J'ai trouvé ça tellement beau.
Bah, c'est clair que quand t'es actrice, surtout à ce niveau, ou acteur, tu peux vraiment utiliser ce pouvoir-là, comme n'importe quelle célébrité d'ailleurs.
Bah, c'est l'influence en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est l'influence.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est ce qui fait la différence entre.
Et ça peut avoir une bonne ou une mauvaise influence d'ailleurs.
Bah, totalement. Bah, regarde Kim Kardashian qui a commencé à promouvoir les sucettes contre la faim.
Oh
fin.
Là là,
non,
mon
Dieu. Éthiquement, je sais pas comment tu peux promouvoir.
Mais grave,
ça.
C'est clair.
Et à côté, t'as Mbappé qui reverse
tous
ses fonds
à
une
association. De la Coupe du Monde, c'est clair. De la Coupe du Monde à vos associations.
Ouais. Bah c'est un choix toi face à toi-même quand t'es dans ton miroir.
Bah ouais, c'est clair. C'est soit limite soit le fric, soit l'éthique en fait limite, parce que j'imagine que elles sont carres vraiment de ces sucettes, tu vois, c'est juste pour le fric.
Surtout non, mais surtout qu'elle a déjà du bif, tu vois.
Mais oui, mais ouais, mais c'est genre de personne, tu vois,
bah
c'est
ouais,
c'est
je sais pas, vraiment, pour moi t'as un stade, t'en as assez.
Ouais, mais non, enfin ils sont dans une famille.
Attends, moi aussi que tu ta tête, genre il éclate parce que là il me stresse de ouf.
Éclate-le.
Attends,
j'ai pas envie qu'il
bouge. Attends, bouge pas. Attends. Il est où là? Attends, je le vois, il bouge trop vite. Attends. Oh putain, tu l'as eu?
Je sais pas.
Putain, t'as vu le suspense qu'on est en train de mettre dans le podcast là ?
Oui, non, mais que les Kardashians, c'est quand même une famille de, entre guillemets, businessmen. Enfin, je dis pas que tous les businessmen font forcément de mauvais trucs, hein. Mais pour le coup, eux, ils sont arrivés à un stade où c'est vraiment le fric. Donc je pense que, tu sais, il y a un moment où ils s'en foutent de ce qu'ils vont promouvoir ou
ouais,
pas.
Ouais, je pense aussi, ouais. Bah, c'est vrai que moi, c'est vrai, devenir une personnalité publique, ce serait pas quelque chose qui m'enchanterait, tu vois.
Bah, ça engendre tellement de responsabilités, en fait, déjà, même par rapport à ton image à toi.
Ouais.
Enfin,
rien que toi, tu peux te permettre tellement
moins
de choses.
C'est ça, genre, ne serait-ce que boire, enfin, tu vois, jamais... Enfin, c'est un exemple.
Boire, mais... de l'alcool ?
Ouais, genre, c'est le plus gros exemple que j'ai trouvé là maintenant, tu vois, mais par exemple... aller un peu teaser le soir avec tes potes et quitte à te mettre une cuite, tu t'en fous, tu vois. Ben là, non, pas du tout en fait, parce que s'il y a des paparazzi qui te chopent, ben, ça va être amplifié fois 1000 et tu vas paraître pour une personne beaucoup plus malsaine que n'importe qui va se bourrer la gueule normalement. Donc là, c'est un exemple un petit peu extrême, entre guillemets, mais
non, c'est, mais ça, c'est pour vrai, trop de choses en fait. Il doit grave se poser la question en fait. Hein.
Mais bien sûr, je pense pas que tu vois, enfin, je pense qu'ils font hyper attention à ce genre de choses.
C'est ça que je me demande. Je me demande si les acteurs recherchent avant tout la notoriété, parce que c'est ce que je me disais quand j'étais petite, et maintenant avec le recul, j'ai l'impression que c'est vraiment une passion qu'ont la plupart des acteurs. Bah... Enfin, déjà, si jamais t'es pas pistonné, faut avoir une putain de détermination, parce que devenir acteur quand t'es pas pistonné, c'est l'horreur.
Bah, ça dépend.
Tu passes casting sur casting. Qui c'est qui s'est fait rejeter de plein de castings ? Je sais plus si c'est Emma Stone ou je sais plus. Je crois que c'est Emma Stone.
Ouais, c'est possible. Je crois que tu m'en as parlé en plus pendant les vacances.
Il y a moyen. Et donc, c'est la preuve qu'en fait, c'est juste ta passion. Et qu'encore une fois, le propre de la passion, c'est que de toute façon, t'aimes tellement ça que t'arrêteras pas.
Ouais, c'est clair.
Même si tu te fais refuser.
Je pense pas. Ça, non, pour le coup, je pense pas que acteur. Enfin, après, il y en a peut-être qui l'ont fait pour la notoriété. Hein. Mais je pense que si tu veux vraiment que la notoriété, je pense que tu deviens comme les Kardashians, par exemple.
Tu fais de la télé-réalité, en fait.
Tu vois, tu fais de la télé-réalité.
Ouais,
exactement.
Bah, clairement.
Parce que s'il n'y a pas de
profond... On voit sur les réseaux sociaux. Hein.
Enfin, déjà, pour vouloir que la notoriété, il faut être quand même super superficiel à la base, je pense. Parce que ça veut dire qu'on... Enfin...
Ouais, bah, j'aimais pas du jugement de valeur. Parce
non,
que,
moi non plus.
En fait, encore une fois, ça dépend qu'est-ce qu'il y a derrière. Si c'est la notoriété pour la notoriété, oui, c'est vain. Après, si c'est pour apporter un message, ça, c'est... Bah, c'est
mais
c'est...
oui, mais dans ce cas-là, tu fais pas la télé-réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, à moins que ce soit un message... Enfin, tu peux pas porter vraiment de message super positif.
Bah, il y a d'autres moyens de le faire.
Il y en a sûrement qui peuvent le faire comme ça, mais je pense que c'est pas le moyen le plus smart d'y arriver. Après, oui, non, j'ai pas non plus envie de juger, loin de là. Mais... pour reprendre pour les acteurs, je pense vraiment que ouais, c'est une putain de passion. J'ai vu d'ailleurs une, et je crois que j'en avais parlé, le casting de Selena Gomez pour Les Sorciers de Waverly Place, les vrais connaîtront, sur Disney Channel quand on était petite. Et tu la vois, elle avait quoi ? Elle avait 12-13 ans. Et elle avait une telle détermination dans ce qu'elle disait, et une telle assurance. Attends, c'est un bouchon. Une telle assurance, c'était dingue de voir une petite avec une assurance pareille à 13 ans. Il y avait la casteuse qui lui demandait « Bon alors, toi, qu'est-ce que tu veux faire ?» et tout. J'étais là « Yeah, I just manage. » Elle dit « Oui, je suis juste en train d'organiser ma carrière d'actrice et de chanteuse. » C'est toujours trop mignonne. C'est déjà à 13 ans, elle savait déjà qu'elle voulait devenir ça. Et ça sentait vraiment la passion et l'assurance qu'elle avait là-dedans. Quoi. Enfin, quand tu la voyais jouer... Hein. Mais elle était tellement à l'aise, la nana. Et je pense
en fait,
que...
il faut de l'assurance et la confiance en soi.
Exactement.
Enfin, en tout cas, même si c'est pas de la confiance en soi, croire en soi.
Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, parce que je pense qu'on n'a pas forcément confiance en soi à 100%.
Je pense pas non plus. Ou alors, c'est très. Enfin, non, en fait.
Ou alors,
parce que,
les gens.
Tu peux toujours progresser. Enfin, pour moi, quand on a atteint le stade, on a super confiance en soi. C'est qu'en fait, on, entre guillemets, se croit tellement bon qu'on n'aspire plus au progrès.
Ouais, non, mais en plus,
alors
ça,
que,
c'est pas très...
Alors que quand tu gardes un peu une. Enfin, je sais pas quel serait le contraire de la confiance, mais en tout cas, quand tu n'es pas le plus assuré de la Terre, tu vas chercher à devenir meilleur. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis.
Ouais. Bah ouais, c'est sûr. Enfin, vu comme ça, ça peut paraître logique. Mais est-ce que toi, pour le coup, t'as confiance en toi ? Parce que c'est quelque chose que les gens peuvent se demander, d'ailleurs, à travers les réseaux sociaux et tout.
En fait, je sais pas, parce que j'ai toujours assez mal vu la confiance en soi. Je sais pas pourquoi. Je pense déjà que c'est assez français.
Ouais.
Et en fait, les personnes qui s'aiment trop, enfin, pas qui s'aiment trop, qui ont trop confiance en elles et qui sont arrogants, en fait, j'ai associé malgré moi la confiance en soi à l'arrogance. Donc en fait, je dirais que je m'accepte et je m'aime, ça c'est sûr. Et ça a pris du temps, mais ça, je trouve que c'est bien de pouvoir le dire. Parce que c'est marrant, parce que dans plusieurs de mes podcasts, les femmes me disent je m'accepte, mais je ne m'aime pas. Moi, si, je m'aime, parce que je trouve ça trop triste de ne pas s'aimer, alors qu'on va vivre avec soi-même toute sa vie. En tout cas, ce en quoi je crois, j'ai confiance. Ce que je veux voir réaliser, j'ai confiance. Donc, en fait, je pense que c'est plus de l'auto-persuasion, voilà, de tellement vouloir voir les choses arriver que ça me donne la confiance en moi de pouvoir les concrétiser. Donc, c'est-à-dire que je vais pas du tout... En fait, non, je vais pas me surkiffer, au contraire, me surestimer, voilà. Ouais. Je vais jamais me placer sur un piédestal... où je vais jamais penser que je pourrais faire quelque chose et en fait j'avais visé trop haut et en fait résultat c'est inverse. J'ai pas cette over confidence, mais je pense oui que je dois avoir quand même pour mener ces projets. Et en fait je pense que la vraie diff, c'est que j'ai réalisé qu'on peut réaliser tout ce qu'on imagine. Donc tu vois, je pense que les gens peuvent se dire qu'elles doivent avoir grave confiance en elles pour pouvoir déjà se montrer sur les réseaux sociaux, pour pouvoir accomplir tous ces projets et tout. Mais non, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment juste... Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et vous pouvez le choisir, en fait. C'est pas je suis née en confiance en moi ou j'ai travaillé pour avoir confiance en moi. Enfin, si, parce que le sport m'a aidé à réaliser, je pense, que je pouvais accomplir ce que je voulais accomplir et à progresser. Mais en tout cas, j'ai pas attendu de me dire ça y est, j'ai confiance en moi pour faire des choses. Et c'est en faisant que j'ai peu à peu gagné confiance. Donc ouais, je pense qu'en fait, je suis sur la voie de la confiance en soi. Et à chaque fois que j'arrive à réussir quelque chose ou à accomplir ce que je veux accomplir, bah, j'ai un peu plus de confiance. Mais donc en tout cas, mon conseil pour toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles, c'est de commencer à faire. Parce que beaucoup, elles vont tomber dans l'écueil de ne pas faire parce que du coup, elles n'ont pas confiance. Mais du coup, vous ne pourrez jamais gagner confiance vu que vous ne ferez jamais rien et que vous n'aurez pas cette... cette confiance gagnée par le fait d'avoir réussi ou accompli quelque chose. Donc, même si vous foirez, que ça vous donne la détermination pour mieux faire la prochaine fois, mais surtout pas de vous censurer parce que sinon, vous êtes juste une âme misérable, quoi. Donc, c'est assez cru, c'est assez, tu vois, extrémiste, entre guillemets, c'est assez, tu vois, noir et blanc. Mais pour moi, on peut vraiment réussir, enfin, on peut vraiment essayer et même réussir, ouais, tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on veut voir réaliser. Si on y croit, pas si on a confiance, juste si on y croit.
Ouais, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a aussi, enfin, plusieurs types de confiance en soi, tu vois. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux via leur physique, d'autres par leur personnalité, d'autres par, je sais pas, leur intelligence, tu vois. Enfin, évidemment que ça revient toujours à la confiance en soi globale, mais je pense du coup que peut-être chacun doit travailler avant de pouvoir ne serait-ce que imaginer, en fait, tu vois ce que je veux dire, des trucs qu'ils ont envie de réaliser. Je pense que d'abord il faut travailler sur quelle partie de soi on n'a pas confiance, parce qu'il y a forcément des points forts et des points faibles
totalement,
d'entre nous, tu vois.
Totalement. Et surtout chercher à savoir pourquoi. Par exemple, si jamais on n'a pas confiance en soi par rapport à son physique, c'est sûrement parce qu'on se compare aux autres.
Ouais.
Donc c'est arrêter de se comparer aux autres et réaliser qu'on a un corps, qu'on a une gueule, qu'on aura la même jusqu'à la fin de notre vie et que c'est pas une erreur. Et c'est pas une histoire de Dieu nous a construit comme ça. Hein.
Ouais.
C'est juste une histoire de... On est tous putain de différents.
Ouais.
Arrêtez de vouloir ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas, tu vois.
Mm-mm.
Moi, c'est juste ça que j'ai grave réalisé. Donc, encore une fois, c'est... Ouais, je pense que c'est toute une histoire de croyance, en fait.
Ouais.
C'est à partir du moment où vous êtes OK
c'est ça.
Avec la croyance de... Ben, quoi, soit que vous valez quelque chose, soit que vous êtes beau, ou soit que, voilà, une fois que vous vraiment vous y croyez, c'est là, pour moi, où on a confiance.
Bah, je pense que c'est là où tu peux vraiment commencer à essayer de réaliser ce que tu veux. Parce que je pense... Enfin, après, ça, c'est mon avis. Mais je pense que quelqu'un va avoir du mal à réaliser vraiment tout ce qu'il veut entreprendre tant qu'il n'aura pas travaillé sur ça. Enfin, sur cette partie-là de,
ouais,
de manque de confiance.
Ouais,
ou quoi,
t'as
tu
raison.
Vois.
Et je parlais d'un podcast que j'ai découvert de Brooke Castillo qui dit « Our thoughts create our feelings that drive our actions ». Et c'est nos pensées créent nos émotions qui conduisent nos actions. C'est ça le processus.
Ouais.
C'est pas l'inverse. Et les pensées, c'est commence et donc c'est ce sur quoi vous avez la main.
Et d'ailleurs, du coup, on parlait de processus et de thérapie, etc. Et toi, ton compte Instagram, c'est quoi qui t'a vraiment poussé à le faire ? Comment ça t'est venu ? Est-ce que à la base, c'était
justement pour dégager ce truc de body positivity, pardon, pour avoir des followers. Enfin, c'était dans quel but?
Ouais, alors, pas du tout. Pas du tout, moi, je l'ai créé parce que je voyais les femmes, donc, notamment en Angleterre, mais aussi aux États-Unis et en Australie, montrer que faire du sport, c'était avant tout se sentir bien et ne pas être dans la restriction. Et donc moi, c'était à peu près un an après avoir commencé mon fitness journey. Et donc c'est vraiment là, tu sais, où j'ai eu le switch de je veux plus juste perdre du poids et je veux être forte. Mmh. Et donc c'est l'époque où on n'arrêtait pas de me dire que je devais rien manger pour être pour avoir ce corps, que je devais être tout le temps dans la restriction, et je voulais montrer que non, pas du tout, putain, manger sain ça peut être bon, que faire du sport ça peut être juste pour se sentir bien. Et c'est un message que j'avais vachement mal trouvé en France. En France, les comptes Instagram étaient encore vachement je te jure, hein, je disais ça à ma soeur jumelle il n'y a pas très longtemps, je disais c'est dingue, au début vraiment je pouvais voir des fils, je pouvais voir des posts dans mon fil d'actualité et je pouvais te dire si jamais c'était un compte français ou un compte anglais. Parce que le compte français, c'était coquillettes jambon et les filles qui te disaient « Coucou les filles, ce soir, c'est coquillettes jambon, seulement 250 calories, youpi, on continue les efforts, tu vois. » Et un post anglais, ça allait être des frites de patates douces avec, je sais pas, un burger végé ou tu vois, un truc comme ça. Et la fille qui se mettait en légende « Healthy is not about being restrictive, tu vois, strong not skinny. » Et j'étais là « Mais putain, pourquoi il y a ce gap, en fait, entre la France et d'autres pays ?» Et donc, en fait, j'ai juste voulu le créer pour mind un peu le gap, tu vois, pour essayer de rejoindre le pont. Et c'était vraiment ma seule et unique ambition. Jamais je ne voulais devenir influenceuse, entre guillemets,
tu vois. Ouais, c'est venu tout
parce ça. Que, encore une fois, moi, j'étais là en mode, non, les seules carrières valables, c'est les études, il faut faire de grands métiers. Enfin, tu vois, ce qu'on m'avait un peu intériorisé. Donc, c'était vraiment juste essayer de montrer aux gens qu'on pouvait être dans le plaisir et pas juste dans la restriction.
Ouais, c'est clair. Et tu as une idée de pourquoi c'est comme ça en France et pourquoi c'est pas développé? Ou est-ce que c'est juste la mentalité française ou
Bah en fait, c'est en train de changer déjà. Franchement, il y en a de plus en plus en France qui promeut maintenant ce message. Parce que du coup, oui, j'ai évolué encore plus dans le secteur d'acceptation de soi. Parce qu'en fait, plus j'étais sur Insta et plus j'en avais marre de voir les corps parfaits. Et même moi, de me dire « mais pourquoi je ressemble pas à ça ?» Enfin, c'était super malsain.
Ouais.
Et pourquoi, en tout cas, c'était moins présent en France? Oui, je pense que c'est parce que nous, on a moins d'extrêmes. On a toujours été plus dans le bon vivant. Et du coup, je pense, bah, notamment aux États-Unis, tu vois, il y a énormément de problèmes d'obésité, de junk food. Et donc, je pense qu'il y a vraiment eu ce mouvement opposé de manger sain et être bien dans sa peau et prendre soin de son corps et yoga et méditation, qui est moins le délire français de on va tous arrêter de boire du vin et manger du fromage pour faire des retraites, de détox, selfie, et faire du yoga, tu vois. Et qui n'est d'ailleurs pas mon délire.
Ouais.
Mais ouais, je pense que du coup, c'est moins dans notre culture, tu vois. Juste, on en revient à la culture. Mais en plus, j'adore la culture française.
Ouais.
J'adore la culture française et je suis très contente d'être française.
Ouais. et là, bon, tu nous parles de tout ce qui va bien, de tout ça. Mais parle-moi d'une fois où tu t'es rendu compte que ce que tu faisais n'allait pas. Et que tu n'étais pas épanouie. Et qu'est-ce que tu as fait pour le changer?
Ouais, plus l'envers du décor, bah, carrément. Carrément, je dirais qu'en tout cas, le plus récemment, ce serait quand j'étais à Berkeley. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. En fait, ben voilà, encore une fois, où j'avais trop d'attentes. Et ça, moi, je sais que c'est mon travers, tu vois. Je sais, et d'ailleurs, plusieurs life coach et tout disent... Ce qui rend triste, en fait, c'est les attentes et les expectations. Il ne faut pas avoir d'expectations et tu ne seras jamais déçu.
Ouais.
Et moi, j'ai trop tendance à m'imaginer des trucs. Et donc là, je m'étais vraiment imaginé... tu vois, je partais pour un parcours entrepreneurial. Je voulais vraiment que ce soit on the road to entrepreneurship. Je ressors des 6 mois, je suis entrepreneur, ça y est. Enfin, tu vois, vraiment, j'avais de hautes attentes. Et j'idéalisais aussi vachement ce qu'était un entrepreneur. Et en plus, tout le monde me disait... j'avais conscience du fait que non, c'était pas rose, qu'il fallait beaucoup travailler, enfin tu vois. Mais j'idéalisais quand même vachement la vie d'entrepreneur. Et en fait, arriver aux États-Unis et voir vraiment ce que c'était, oh putain, je me suis pris une claque. C'était tellement pas moi. Parler de business tout le temps, vouloir toujours faire du chiffre, toujours de la croissance. Enfin, en tout cas, vraiment là où c'était, dans la Silicon Valley, c'était juste faire de l'entrepreneuriat pour de l'entrepreneuriat, pas du tout limite faire ce que t'aimes avant tout, juste développe-toi, aie une bonne idée, scale, lève des fonds et deviens une unicorn. Enfin, ah non, mais je te jure, et j'ai mis du temps à me rendre compte en plus là-bas que je perdais toute mon énergie et que en fait moi ce que j'aimais c'était la création et que j'aimais créer et que j'aimais les idées et que j'aimais pas forcément le business en fait. Et que ce que j'aime, c'est avoir plusieurs projets en même temps, ne pas me confier dans un projet, sinon je me brûle totalement les ailes. Et là, c'était vraiment ça, entrepreneur, t'as pas le temps d'avoir 10 000 trucs en même temps, tu vois. Et moi, j'ai vraiment besoin, pour l'instant, en tout cas, d'avoir plusieurs projets qui me font vibrer, dans lesquels je m'épanouis, dans lesquels je peux avoir plusieurs idées, et dans lesquels, ouais, je peux rencontrer des gens, où je peux interagir avec des gens et pas être enfermé avec genre un associé, où t'es, ouais, tu manges ça toute la journée, enfin vraiment, voilà. Ça, c'est ce dont je me suis rendu compte, et ça a été une douche froide. Franchement, ça a été une douche froide.
Limite, c'est parce que je savais pour maintenant, en fait.
Ouais, non, mais carrément. Et ça aussi, j'avais tellement peur de l'échec et de ne pas trouver ma voix. Et au début, je te dis, j'étais tellement en panique. Je ne comprenais pas pourquoi je n'aimais pas ça, tu vois. J'appelais des gens et vraiment, c'était un sentiment hyper bizarre. Mm. Même rien que d'y repenser, tu vois, je ne suis pas bien. Genre, c'était là, bah, tu sais, j'étais dans la phase où je me posais les questions en boucle. Et genre, j'étais avec qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est plusieurs amis qui m'ont fait réaliser que non, j'avais pas à m'enfermer là-dedans. Et tu m'as posé une question là où j'ai dérivé.
Non, ma question c'était que ça a été bénéfique.
Ah, non, bénéfique, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. C'était ouais, je me suis carrément rendu compte que l'échec, j'ai sorti la phrase cliché, mais on apprend tellement de ses échecs.
Ouais, complètement.
Et que en soi, enfin, je suis pas du tout pour l'échec. Enfin, tu vois, je trouve ça con de dire échouer. c'est bien pour vous. Enfin, non, en fait, c'est juste si jamais ça arrive, ben voilà, ça arrive. Apprenez un maximum de ça pour vous relever plus haut encore. Ça, j'y crois, tu vois.
Ouais.
Et ce qui a été totalement le cas, c'est qu'en fait, du coup, maintenant, je sais en tout cas, beaucoup plus clairement, quelle est ma zone de création, enfin, de confort, clairement. Ouais. Et moi, je ne suis pas pour sortir tout le temps de sa zone de confort. Je sais quelle est ma zone d'énergie, tu vois, optimale.
Ouais.
Je sais ce qu'il me faut pour fonctionner bien, ce qu'il ne me faut pas. Et ça a clairement été bénéfique, c'est clair. Donc, il ne faut pas toujours en avoir peur, alors que j'étais la première à en avoir peur, tu vois.
Bon bah écoute Loulou, là ça fait bien, bien une petite heure qu'on parle.
Le temps passe vite quand on s'amuse.
Du coup j'ai une question, ce serait quoi, toi qui aimes la lecture, qui adore ça, quels seraient les 3 livres que tu conseillerais à nos auditeurs?
C'est dur, ouais c'est toujours dur de sortir des livres comme ça, mais en vrai ben, déjà un que j'ai cité, Mindset de Carol Dweck,
ouais.
Qui est pour moi open, enfin qui t'ouvre les yeux de ouf. Sur ben justement pourquoi en fait on est conditionné et comment on peut en sortir et ce qui fait que ben, les gens réussissent beaucoup mieux s'ils ont la growth mindset, mais je vous spoil pas tout. Après, je conseillerais aussi un livre qui est assez life-changing, qui est The 4-Hour Work Week de Tim Ferriss, qui est un des podcasteurs que j'adore et que je crois un des premiers que j'ai écouté. Franchement, je sais que certains l'aiment pas trop. Moi, je trouve vraiment que c'est juste un mec super smart, pas prise de tête, très accessible et qui mais vraiment qui conseille en tout cas des outils qu'on peut actionner à sa vie vraiment de manière simple et qui peuvent être très, très bénéfiques. Et en dernier j'ai envie de conseiller un roman.
Bah ouais, c'est ce que j'allais dire.
Juste mon roman préféré qui est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Voilà.
J'avoue, je l'ai jamais lu ce livre, mais j'en ai beaucoup entendu parler.
Bah,
je suis pas une grande lectrice, mais je sais que...
Non, mais en soi, je pense que ça plaît pas à tout le monde, mais si jamais vous aimez rêver, et j'adore rêver, et ben c'est le livre pour vous. Voilà.
C'est beau. Bien dit. Et donc, je vais terminer par la question que tu poses à chaque fois à la fin de tes échanges pendant les podcasts. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie prendre le pouvoir de ta vie?
Putain, tu sais que c'est ouf parce qu'en vrai, je me la suis jamais vraiment posée. Non, mais tu sais, là, le fait que tu me la poses, je suis là, genre, si en vrai, j'ai quand même dû réfléchir et en vrai, je le sais, je pense. Si tu prends le pouvoir de ta vie à partir du moment où tu réalises que tout ce que tu peux penser peut devenir réalité. Voilà. À partir du moment où tu réalises que tu as le contrôle de A à Z sur ta vie, pour moi, t'as pris le pouvoir de ta vie.
Ok, d'accord, bon, on va pas complètement terminer là-dessus alors parce qu'on a besoin de savoir comment tu mets ça en action.
Bah en fait, pour moi c'est vraiment juste, tu te le dis, tu réalises là une bonne fois pour toutes.
Oui.
Tu peux, tu es capable de réaliser tout ce que tu veux Maintenant, répète-le-toi, écris le noir sur blanc sur ton frigo ou sur ton oreiller, et go.
Bah, en fait, parce que j'avais vraiment un mot, entre guillemets, et qui te représente quand même vachement, je trouve, maintenant, enfin, en tout cas, surtout ces derniers temps, et que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire et que je pense que beaucoup de, mal à, que beaucoup de gens ont mal à faire aussi, c'est d'oser, en fait. D'y aller un peu au culot parfois et d'oser faire les choses, d'oser... Bah, par exemple, d'oser demander à des gens que t'adores de venir à ton podcast, d'oser, je sais pas, enfin, plein de choses que tu fais dans ta vie déjà à la base. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a beaucoup de mal à faire. En tout cas, moi, personnellement, et je vois quand même qu'autour de moi, c'est quelque chose... Voilà, on peut facilement avoir honte ou facilement... voilà, parce qu'on a tous un peu de timidité en nous ou je sais pas, tu vois...
Ouais, mais là, tu mets le doigt sur un truc hyper important dont on n'a pas parlé.
Ouais.
C'est qu'en fait... dire fuck au regard des autres.
Ouais.
En fait, pourquoi t'oses pas?
Bah ouais.
Parce que, mais comme tu dis, ça est arrivé au moins 5 fois dans le séjour où tu m'as dit putain, mais j'ose pas, ou plein de fois où j'ai poussé le bouchon un peu loin et t'étais limite gênée.
Ouais.
Parce que tu pensais au regard des autres.
Ouais.
Moi, je n'y pense pas.
Ouais.
Je n'y pense plus. C'est assez égoïste, hein. Mm. Mais d'un côté, non. Parce que du coup, je m'en fous de ce qu'ils vont penser de moi. Je m'en cague.
Ouais.
C'est hyper libérateur.
Ouais, mais tu sais, parfois j'ai peur de faire chier ou tu vois, enfin au-delà
au pire,
du fait de c'est plus sur leurs sentiments, tu vois,
mais au pire tu fais chier.
En place.
Ouais, voilà. Ben, il faut apprendre à mon avis à plus se mettre à sa place qu'à la place des autres.
C'est sûr. Sans forcément aller dans l'extrême hein.
Bien sûr. Je te dis pas de faire chier les gens vraiment.
Bien sûr, bien sûr.
T'as pas donc tu en as 2h du matin, ce qu'on sent, bah les couilles.
Ouais,
mais en tout cas, quand il y a quelque chose qui te tient à cœur et que tu vois que tu t'auto-censures parce que t'as peur de ce que les gens vont penser et tout, là non.
Ouais, non mais c'est sûr, ça c'est vraiment quelque chose. Et en plus j'avais vu, j'aimerais tellement retrouver le nom du mec, mais alors ça c'est impossible parce que ça fait plus de 3 ans que j'ai vu l'expo, mais c'était une expo sur le bonheur, et où il disait justement qu'en fait, même de manière générale, on n'osait pas, par exemple, tu vois, quand on voulait quelque chose, ne serait-ce qu'un truc tout con, mais aller demander l'heure dans la rue à quelqu'un, ou aller demander quelque chose dans la rue à quelqu'un,
grave,
tu vois.
Grave.
Et il disait, c'est dingue à quel point plus je le faisais, plus je me repoussais à le faire, enfin plus je me poussais à le faire et où je le faisais, plus je me sentais bien et je me sentais heureux, juste parce que en fait j'avais dépassé ce truc-là.
Moi ça c'est un truc que je conseille et ça c'est un truc que je vais mettre en œuvre.
Ouais.
Se lancer, allez on va dire,
un
défi
défis,
par semaine
ouais.
De trucs tu te dis putain je vais pas oser et c'est un tout est
ouais.
Un muscle.
Ouais.
Tout est une question de practice.
Ouais,
genre ça, c'est un
clair.
Truc tellement vrai. Et je crois que je vais me faire ça. Je crois que même moi, je vais me faire en fait un truc que j'ai entendu dans un podcast aussi. C'est je vais me donner 5 choses dans lesquelles je dois échouer chaque mois. Ouais, parce que j'ai encore peur de l'échec, tu vois, malgré
ouais,
tout.
Ouais, c'est vrai.
Donc non seulement ça va me pousser, à mon avis, pousser le bouchon un peu plus loin.
Ouais.
Parce qu'il faut que vraiment je me dise, tu vas faire 5 trucs là. Enfin, 5 trucs que tu penses vraiment que tu vas échouer. Par exemple... je sais pas, contacter Macron pour faire une vidéo. Non, mais tu vois,
ouais,
genre.
Ouais, grave.
Et du coup, déjà, non seulement tu vas passer à chaque fois la barre un peu plus haute, et ça se trouve, il y a des trucs, tu vas réussir alors que tu ne voyais pas.
Ouais.
Et il y en a d'autres, tu vas échouer,
c'est clair.
Tu prends une claque, tant pis, tu vois.
C'est une super bonne idée de faire ça.
Bah, je crois que j'ai trouvé le nom du podcast de cet épisode, ça va être Oser prendre le pouvoir de votre vie.
Ouais, grave, c'est bien ça. Bah écoute, normalement, la dernière question que tu poses, c'est où est-ce qu'on peut rediriger les gens pour en savoir plus sur eux ? Bah là, du coup, je vais directement rediriger les gens vers tes podcasts, InPower, Instagram, My Better Self, et YouTube également, My Better Self.
Ouais.
Ah oui, et surtout, de vous abonner au podcast, parce que c'est ce qui l'aide le plus, et de mettre un petit 5 étoiles, ça sera encore mieux.
Merci, Lolette. Merci à tous. Merci beaucoup de t'être joint à nous pour cet épisode d'InPower. Si tu apprécies le podcast, c'est maintenant que tu peux le faire savoir en laissant ton avis sur Apple Podcast. Ça ne prend que quelques secondes et c'est vraiment ce qui me soutient le plus. Un grand merci et je te dis à très vite pour le tout nouvel épisode d'InPower.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, chat, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.